C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagne 102.2 FM.
Wegs, bonjour.
Bonjour, bonjour Damien, bonjour les amis.
Bonjour les amis de Radio Canu, de Muteki, voilà. Et puis surtout, en fait, ça faisait un petit bout de temps qu'on en parlait et qu'on voulait t'accorder justement une bonne partie de notre antenne, justement au sujet de Toku, Satsu, de Sentai et d'autres joyeusetés de ce genre-là, puisque tu nous avais déjà précisé, puisqu'on avait déjà fait l'erreur une fois ou deux dans des discussions comme ça informelles, de confondre Toku et Sentai. Donc, oui, on ne le refera plus, promis.
Ouais, non, c'est simple, hein, de toute façon, quand vous pensez Sentai. Non, c'est vrai qu'en fait, le truc a été installé un petit peu dès le début. C'est que je me rappelle un magazine de Kamea en 94. Il parlait de Sentai, il parlait en général de Toku, en fait.
Et Kamea, qui était un vieux magazine français, justement, un des premiers qui parlait de la culture Jap.
Et donc, pour la blague, hein, tout premier cosplay, même si c'était une création perso, c'était pour Kamea, parce qu'ils avaient lancé le Super Kamea Sentai pour faire un concours de costumes, et j'ai gagné le deuxième prix. Et bon, j'ai fait un super héros tout pourri avec du carton et tout, mais c'était moi qui avait un des costumes les plus élaborés, mine de rien. J'ai eu le deuxième prix. Et donc, il s'était planté. Donc, il parlait de Sentai, mais en fait, il parlait de Kamen Rider et d'autres trucs. Donc, c'était du Tokusatsu, mais pas du Sentai.
D'accord. On précise aussi que tu présentes Costume Player sur No Life. Voilà, comme ça, je t'embêterai plus avec ça.
Voilà, c'est fait. Voilà, ça, je présente Costume Player sur No Life.
Parce que mais c'est pas le but du sujet.
Voilà, parce que je suis un très mauvais cosplayer, mais j'en parle très bien.
Avec beaucoup de modestie, moi, j'aurais même pas la moitié du talent, mais bon, on arrête là. Bref, on va commencer justement de différencier une bonne fois pour toutes le Tokusatsu. Il est tout seul, en quelque sorte, le Sentai, ils sont 5, c'est l'escadron de combat.
Tokusatsu, c'est un terme japonais, c'est encore un mot à valise, comme on dit souvent, donc c'est une contraction, mais en gros, ça désigne les effets spéciaux. Donc même Godzilla est un Tokusatsu à la base, en fait. Mais maintenant, quand on parle de ça, c'est plutôt pour désigner les séries télé à effets spéciaux, donc tout ce qui est justement les trucs qui sont diffusés au Japon, à la télévision, notamment les Kamen Rider et les Sentai, mais il y a d'autres trucs qui sont plus ou moins one shot. Garo, qui est une excellente série, reste un tokusatsu qui a été écrit par un grand auteur de tokusatsu, Amemiya, Keita Amemiya, qui a écrit du Live Man, qui a écrit des trucs comme ça, qui est un grand fan de toku. Et donc en gros, on part de ce principe là, c'est effets spéciaux, donc c'est un genre qui est très très large. Mais après, c'est comme pour la musique, en fait, c'est comme pour le rock. Il y a des genres, des sous-genres, des sous-sous-genres, des sous-catégories. Ce qui fait que, par exemple, on va partir de, pour prendre un exemple, il y a XOR qu'on connaît, donc le Uchūkeiji Gaban. C'est un Uchūkeiji, c'est un space shérif. Il a une armure. Donc il a créé déjà deux genres. Il a créé les Space Sheriff et les Metal Heroes. Donc déjà on a deux sous-genres parce que c'est une première, en fait. Enfin, il y a eu d'autres trucs en armure, mais là vraiment ça crée un genre. Et donc il y a eu donc les Space Sheriff, il y en a eu que trois. Gavan, Sharivan, Shider.
Bon, après, ce qu'on appelle XOR, XOR rouge,
XOR c'était 02,
XOR 02, voilà, c'était
XOR 02. Et après, on a eu un peu Sharivan aussi sur la 6. Et Shider, Capitaine Shider sur TF1, avec la même mélodie par Patrick Imjan Jones que Ranma 1,5. Si vous vous rappelez, ça fait Capitaine Shider, c'est tout ridicule. et on a failli. En fait, il y a eu des questions.
Il y en a qui se souviennent, sans déconner.
Non, mais ouh là là, c'est.
Une petite question piège d'ailleurs, puisque avant justement d'aborder d'autres genres comme les Sentai par exemple, parce que Sentai veut vraiment dire escadron de combat en plus de ça.
Sentai, c'est un super escadron Sentai, de combat. Voilà.
Mais question piège, Sankukai, c'est un tokusatsu aussi, mais c'est quoi au juste? C'est une parodie de Star Wars, d'accord, mais ils sont pas un, ils sont pas cinq.
Alors, non, c'est pas un. Donc, c'est un toku de toute façon, parce que ça a effet spéciaux. Mais en fait, c'est assez compliqué parce que c'est. À la base, il y a eu un film, Uchūkara Meseji, un message de l'espace, qui est effectivement totalement une copie de Star Wars. Ça a surfé sur la vague Star Wars, mais il y avait une majorité de casting occidental dedans. Ça n'avait rien à voir avec la série qui a eu lieu après. En fait, ils ont fait un film avec une histoire toute pourrie, avec des élus, avec des noisettes magiques. Il y a eu plein de scènes d'action avec des maquettes, dont une qui préfigurait quand même l'Empire Contre-Attaque, donc qui était faite avant l'Empire Contre-Attaque, avec une scène de poursuite dans un vaisseau mère, mais avant l'Empire Contre-Attaque. C'était un film, assez catastrophique, où tu vois les mecs, ils mettent un masque à gaz et ils nagent dans l'espace, tu vois, donc c'est tout pourri. Et il y a ensuite une série télé qui s'appelait pareil, donc Uchūkara Meseji, parce que Sankukai, c'est encore un titre français qui n'a rien à voir, c'est le nom d'un art martial de l'époque, qui était assez populaire à l'époque. Ils ont juste repris les scènes d'action, les scènes de vol, de vaisseau, tout ça. Et c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le film, à part les vaisseaux et les scènes d'action. C'est une sorte de bootleg ils ont étendu la sauce en fait avec des trucs. Ils ont utilisé des stock shots réutilisés. C'était toujours les mêmes scènes d'action. Et c'était une série qui a été faite vraiment, comme qui dirait, vraiment avec 3 francs 6 sous parce que toutes les planètes, toutes les scènes d'extérieur sont faites dans un décor naturel qui met pas plus de 2 km autour des studios. Hein, c'est très important. Les mecs avaient des costumes, ils avaient qu'un seul costume, ce qui fait qu'on voyait par exemple le collant se filer pour Staros. Seaman avait qu'un seul masque en latex, donc on voyait le latex pourrir au fur et à mesure de la série. C'était assez
une série évolutive avant l'heure quoi.
Mais attends, il y avait des trucs de ouf. On voit par exemple, je sais plus, donc c'était Ryu qui s'infiltre dans une base, tu vois, pour piquer les plans de la base pour pouvoir y entrer.
C'est un peu Brie contre Robert avec, tu sais, avec le collar au chaud, voilà. Où le mec vient apporter lui-même une lettre de rançon pour dire qu'il s'est fait enlever, quoi.
En gros. Mais t'avais des
Et puis après, il y retourne.
Mais t'avais des trucs quand tu regardes la série. Honnêtement, les gens qui ont un bon souvenir de la série ne la regardaient pas en DVD. Il ne faut pas. Parce que franchement, c'est pas une série qui supporte. Il y a autant Bioman. Honnêtement, je me suis refait Bioman récemment. Ça a un petit peu vieilli, mais ça passe bien. Autant non, Son Kukai, il faut surtout pas quoi. Ça s'est pris des années dans la tronche, mais méchamment quoi. Je me rappelle un passage où t'as Seaman qui tombe dans l'eau et on voit l'acteur se noyer en direct dans son masque en fait. C'est-à-dire qu'en fait il y a de l'eau qui coule du masque, des yeux, du nez et le mec en fait il bouge. Alors on dit bon c'est Seaman, il est mouillé. Non, c'est parce qu'en fait le mec il a de l'eau plein le masque, il arrive plus à respirer en fait.
Et entre les prises, ils étaient pas foutus de. Bon d'accord.
Voilà, c'était tourné vraiment à l'envi avec les trucs en caoutchouc et tout ça. Ça a permis à pas mal de petits jeunes de commencer. Il y a Hiroyuki Sanada qui a commencé, bon, maintenant qui est un grand acteur japonais, qui a été un acteur d'action. Il y a Kenji Oba qui a débuté là-dedans aussi.
Gavan.
Il a eu des rôles souvent de villageois avec des moustaches. Kenji Oba, ensuite, on connaît pour Gavan, mais au Japon, il est aussi connu pour ses rôles dans deux séries de Super Sentai, Battle Fever et Denjiman.
On est bon. Neoki ga warui. Toile kara derarenai. あなたの近くにラジオがない。それともリオンに住んでいない？それならインターネットにアクセス。myspace.com/mutekikanyu
Kenji Oba, on va carrément faire mes limites tout un chapitre de la discussion parce que il a en plus de ça une actu cette année puisque voilà, il y a cette série qui s'appelle Gokaiger et non pas Gokaiger comme on pourrait le dire. Oui, voilà.
On va clarifier les choses tout de suite. Les séries, il y a pas mal de Sentai qui finissent en Ger, donc Rikenger, tout ça.
Et Ranger.
Voilà, mais ça finit en Ger. Si vous lisez les katakana, ça s'écrit Ja, ça s'écrit pas Gar. Et en plus, c'est des Rangers, c'est pas des Rangers. Donc, c'est Gokaiger.
Une bonne fois pour toutes. Voilà. Contrairement à
il y a eu une autre
notre ami en pixel. Cool. Voilà. Mais cette année, donc voilà, en plus de ça, c'est cette année, c'est une sacrée révolution parce que c'est un véritable hommage.
Ah non, mais Gokai.
Rendu en fait, à 35 ans. Enfin, non, pas 35 ans. Oui, voilà, exactement. Pas 35 ans de Super Sentai. Explique-nous un peu ça.
En fait,
justement.
C'est pas 35 ans, parce que ça marque 35, mais c'est la 35e série. Parce qu'il y a 36 ans, en fait, parce que la toute première série qui s'appelle Go Ranger a
les
eu.
Go Ranger, justement.
Les
voilà.
Go Ranger ont eu deux saisons. Il y a eu deux saisons, ça a duré deux ans, donc ça dure. C'est la première série, mais qui compte pour deux ans.
Contrairement aux autres Sentai qui ne durent qu'un an.
Un Sentai en général, c'est une saison, un an, 50-52 épisodes. Et c'est la 35e série, mais c'est pas les 35 ans du genre. Contrairement au Kamen Rider qui fête aussi ses 40 ans cette année, par contre. Et Gavan fête ses 30 ans cette année. C'est très
2012.
Important.
Non seulement il y a la fin du monde, mais en plus trois anniversaires.
Voilà, c'est un truc de ouf. Cette année, c'est. Mais en fait, autant Decade, bon, vous devez marquer les 10 ans de la nouvelle génération de Kamen Rider, et ça a été une catastrophe.
Ouais, Decade, c'était Kamen Rider, et c'était il y a combien
de... C'était en 2010. Pour fêter les 10 ans, justement, parce qu'en 99, se relançait la franchise Kamen Rider après plusieurs années d'absence, avec Akito, qui était très très bien. Et pour conclure les 10 ans du truc, ils ont fait Decade. Et ça a été fait en dépit du bon sens. Bon, donc c'était pas terrible à part nous créer le Chuck Norris du Kamen Rider, parce que Decade, il est trop fort.
Le mec, il sait tout faire.
Bah, Decade, il est aussi fort que tous les riders réunis. Donc il sort un truc, il est balèze, voilà. Donc c'était assez peu intéressant. Alors que justement. Alors que Gokaiger, ça a été fait beaucoup plus intelligemment que ça. C'est-à-dire que c'est une série qui vraiment donc, s'inclut dans une continuité qui n'était pas forcément... c'était pas patent. C'est-à-dire que normalement, pour un Super Sentai, c'est à chaque fois un essai sur le même thème, mais c'est pas des suites.
C'est-à-dire et ils se communiquent pas entre eux en quelque sorte.
À part dans des crossovers un peu au forceps quoi. Mais contrairement à ce qu'on pensait en France ou comme les Américains le pensent, quand en France on a fait Bioman 2, Bioman 3 machin, ou les Américains Power Rangers machin,
on peut parler. Ils sont vraiment américains là pour le coup, mais
ouais,
bon.
Mais le truc c'est que les Occidentaux on a l'impression qu'il y a besoin d'une continuité, alors que les Japonais non. C'est à chaque fois un essai sur le même thème. Il y a une structure, il y a un cahier des charges, et par rapport à ce cahier des charges, à chaque fois on change un petit peu les trucs. Ce qui fait que justement, bah, on se retrouve avec une année hein, des dinosaures, l'année suivante des ninjas et trucs comme ça. Et justement, donc il y a eu deux années de ninjas. Il y a eu deux ninjas, il y a eu Kakurenja et Harikenger. Et pour contrebalancer ça, ils ont décidé de faire des pirates. Donc la preuve quand même qu'il faut deux ninjas pour un pirate. Donc
la proportion.
Les gens qui sont dans le combat des ninjas contre les pirates là peuvent se faire une idée.
On va juste expliquer aussi le principe de Gokaiger, c'est que les cinq compagnons doivent aller chercher dans le passé chacun des pouvoirs des glorieux ancêtres, c'est ça non?
Même pas ça. C'est même pas une histoire de passé. Il y a de nos jours. Il y a eu un grand combat de tous les Super Sentai contre une armée extraterrestre qui s'appelle les Angyak. Et Akaranger, donc le rouge, le leader des Go-Rangers, dit « Le seul moyen de les combattre, c'est de sacrifier nos pouvoirs. » Donc ils se sacrifient pas eux-mêmes, mais ils sacrifient leurs pouvoirs en une immense boule d'énergie et ils perdent tous leurs pouvoirs. Et ils repoussent Zangyak, l'Empire Zangyak. Quelques années après, donc c'est super vague dans la série, on dit pas trop, mais bon, c'est peut-être dans 5 ans, on sait pas. Mais... quelques années après, on se rend compte qu'il y a des pirates de l'espace, les Gokaiger, qui disposent du pouvoir de se transformer en chacun des anciens Sentai. Parce qu'en fait, les pouvoirs de chaque Sentai passé s'est transformé en une clé, alors à l'image du personnage, qui se transforme en clé, et que les Gokaiger peuvent utiliser dans leur mobirate, leur téléphone, machin, et ils peuvent prendre l'apparence d'un ancien Sentai comme ça. Donc leur but à eux, bah, c'est déjà de rassembler un maximum de clés, toutes, de préférence, et d'obtenir d'eux. Alors ça, il faut que ce soit un membre de l'équipe, encore quelqu'un qui est encore là, un membre de l'équipe qui leur donne leur grand pouvoir.
Parce que certains meurent en plus de ça. Enfin,
bah oui. Voilà. Il faut que ce soit donc. Dans Bioman, il y a une Yellow qui meurt. Dans Jetman, il y a le Black qui meurt à la fin. Super classe. Mais il y a des personnages qui meurent. Et donc non, mais il faut qu'ils obtiennent des anciens membres de leur plein gré le super pouvoir, le grand power comme ils disent. Qui permettra ensuite d'acquérir le plus grand pouvoir de l'univers, le plus grand trésor de l'univers. Donc par rapport à ça, ça permet justement d'avoir des combos assez rigolos, genre que des rouges. Donc quand c'est des filles qui portent du rouge, le costume est féminisé, ils portent une jupe. Ou l'inverse. Genre que quand, par exemple, il se transforme en Liveman, le bleu, donc c'est un garçon, il porte le costume de la bleue de Liveman, moi c'est un costume masculinisé. Donc il y a vraiment un gros travail de recherche et d'adaptation par rapport à ça. C'est une série pour les fans, clairement, parce que par exemple, il y a les anciens acteurs qui se pointent, qui apparaissent en caméo. Bah, forcément, parce qu'il faut que. Comme il faut qu'il y ait une passation de pouvoir, il faut qu'il y ait un membre d'une ancienne équipe qui se pointe. Donc, moi j'ai été super ému par l'épisode de Liveman, justement, où il y a le Yellow qui leur file un coup de main. L'épisode, comme je t'ai parlé, de l'épisode des Jetman avec le Black qui revient. Il y a vraiment cette.
Et qui revient en acariâtre en quelque sorte.
Qui revient et qui n'est pas trop d'accord pour que. Voilà. Bon. Mais je ne vais pas spoiler. Mais ce que je veux dire, c'est que même. Parce qu'il y a pas mal de films qui sont sortis en plus. Là, le plus récent, donc, comme on disait, c'était le crossover avec Gavan. Avec Kenji Oba.
En parler de ces films parce qu'il y en a plusieurs et il oui. Y en a et c'est pas fini encore parce que ce sera au cours de l'année en plus.
Alors il y en a un qui
il y en a un avec Kamen Rider, voilà, l'autre avec Gavan. On va faire les choses dans l'ordre.
Il y en a eu deux avant. Il y en a eu un qui était une sorte de film comme les OAV, un truc avec un bateau pirate, tout ça. Donc là, ça n'avait pas vraiment de grandes conséquences par rapport à la continuité. C'est une histoire sans patoche, avec des petits fantômes, tout ça. Il y a eu un film, donc je me rappelle pas exactement les titres, mais c'est en 99 Super Sentai, où là, le gros kiff, c'est que déjà, on voit quelques anciens acteurs qui font pas grand-chose, sauf de la figuration, mais qui font « Allez-y, les mecs !» Mais surtout, on a tous les robots qui se pointent en même temps, tous les robots des anciennes séries. Alors c'est vrai que les premières séries n'avaient pas de robots, mais je veux dire, il y avait des véhicules, tout ça. Donc on a tous les véhicules, tous les robots qui se pointent dans une grande scène gigantesque. Quand on voit ça, on fait « Waouh !» Ensuite, il y a donc le crossover avec Gavan, qui a la grande subtilité de s'inclure dans une continuité par rapport au Super Sentai, parce que Gavan est Space Sheriff, donc les pirates de l'espace qui ont leur tête à prix, les mecs, ils les capturent. Et on se rend compte dans l'histoire, sans trop spoiler, que Gavan a eu un contact avec un des Gokagers quand il était enfant. Donc, il y a vraiment la mayonnaise qui prend. Et le truc qui est marrant, c'est
qu'il y a presque une frontière entre le bien et le mal qui finalement bouge pas mal. Quoi.
Alors ça c'est encore un truc, c'est dans le film à venir qui sort en avril au Japon. Donc c'est Kamen Rider versus Super Sentai. En gros, je ne veux pas raconter le truc, mais en gros, Decade, parce que ceux qui ont vu le film de Decade, de toute façon, c'est le chef des méchants parce qu'il est trop balèze, donc il est trop fort. Et je ne veux pas dire, mais en gros, il y en a qui, il y a vraiment un truc qui est absolument pas manichéen du tout. Mais ce qui est excellent, c'est que donc des acteurs comme Kenji Oba, qui ont eu plusieurs rôles, donc il a eu deux rôles dans deux Sentai différents, et Gavan, il n'y a pas de problème avec ça, ils lui font jouer les différents rôles à chaque fois, à tour de rôle, dans le film de Gavan. Ils le font rencontrer les personnages qu'il incarne, et de façon super naturelle.
Kenji Oba joue Kenji Oba qui rencontre Kenji Oba.
En gros, c'est ça, ouais. Et c'est, avec des petits effets spéciaux un petit peu mal. Le truc, c'est qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a des effets spéciaux qui peuvent être un peu maladroits, tout ça. Mais Dans le toku, quand on kiffe le toku, c'est vraiment le propos qu'on regarde et c'est vraiment pas les effets. Vraiment. C'est-à-dire que il y a des gens qui me disent « Oui, ça se voit que... » Ouais, mais on s'en fout. Je veux dire, ça pose pas de problème aux gens de regarder un mec en collant dans une série américaine, un Superman, un truc comme ça. Mais justement, moi, ce que je kiffe dans le tokusatsu, dans le Kamen Rider, dans Sentai notamment, dans Garo, dans mes trois coups de cœur, c'est que il y a un truc qu'on a perdu dans les séries, parce que quand je demande aux gens, mais citez-moi une série de super-héros américains, une série télé avec des acteurs de super-héros.
Je te répondrai l'araignée, par exemple, parce qu'on a connu ça nous, ou Zorro peut-être,
éventuellement Zorro, mais une série live de l'araignée était foireuse, je veux dire, honnêtement.
C'est vrai.
Voilà. Il y a des gens qui m'ont sorti Smallville. Mais genre, justement, Smallville, c'est là qu'on se rend compte de là où ça pêche, c'est qu'ils se sont acharnés à supprimer toute iconisation. Il n'y a pas le costume, il n'y a pas de pose. On humanise le héros, ce qui est absolument... depuis la mythologie grecque, les demi-dieux sont des demi-dieux. Même s'ils ont des défauts humains, ça reste des demi-dieux. Et le problème, c'est que dans les séries US, depuis un certain temps, ils ont tendance... Il n'y a aucune série qui est viable, série US viable, avec des super-héros qui sont des super-héros iconiques. Ce qui est exactement le cas des toku au Japon.
Donc ils ont trop humanisé, quoi, c'est ça.
Ils
les ont fait descendre de leur piédestal de super-héros, quoi.
Voilà, en gros, à la limite, on sait pas qu'on s'attendrait à les voir aller aux toilettes, mais dans Smallville, on se tape les histoires d'amour de Clark et Lana, par exemple, ce qui est bien, mais où est l'aspect iconique de Superman ? C'est-à-dire que l'acteur ait refusé de porter le costume et qu'il a fallu utiliser l'ordinateur pour les 30 dernières secondes du dernier épisode de la dernière saison. Moi j'aurais bien aimé avoir une série Batman classieuse avec un mec en collant, pourquoi pas, et on n'a pas ça. À chaque fois, moi j'ai un gros problème avec les Batman de...
On l'a eu dans les années 60 avec les pif paf pouf,
oui,
quand
mais...
même.
Non, ouais. Ça correspondait à l'image de Batman dans les années 60 aussi. Il faut dire que la BD c'était Scooby-Doo, quoi. Donc à cette époque-là c'était pop. Mais l'avantage du toku, enfin l'avantage.
Ce que tu aimes dans le toku,
ce que j'aime dans le toku, c'est que justement les héros restent des héros, ils portent des collants, d'accord, mais. Il y a cet aspect-là, un peu comme dans les animés, où les mecs portent les mêmes vêtements. Gavan porte les mêmes vêtements depuis 30 ans, par exemple. Voilà.
Et puis, ils peuvent se planter. Ça ne les empêche pas de se planter, par exemple, dans une pose. Par exemple, Decade qui se retrouve avec un ennemi qui lui gâche un petit peu son effet visuel. Casse-toi de là, quoi.
Ça, c'est dans Den-Ho. Mais ça correspond au personnage. En fait, c'est dans le film de Decade, je vois de quoi tu parles. En fait, c'est Den-Ho, mais c'est le personnage qui est comme ça. Donc, c'est carrément dans le perso, et ça aurait été dommage de s'en priver, parce que le personnage, justement, c'est une personnalité qui est grande gueule. Mais donc, ça n'empêche pas que les personnages soient humains, qu'on peut s'attacher à des trucs, à des aspects, à des personnages, mais que quand ils sont des héros, ils sont héroïques. Et ça, c'est quand même important, je veux dire. Qui fait que nous, quand on était gamins, on kiffe XOR. Je veux dire, par exemple, les mecs qui ont mon âge, quand on leur parle de XOR, ils ont les étoiles dans les yeux. Alors que quand on la regarde objectivement, quand on la regarde maintenant, il y a des trucs qui sont quand même un petit peu what the fuck. Mais l'icône est restée. Le look est resté, le mec est resté. Dans les esprits, XOR, c'est voilà. Et c'est ça qui reste. Je veux dire, quand je parle à des gens de Superman, ils pensent plus à la BD qu'au film. Aussi, ou le film de Donner, où vraiment Christopher Reeve est iconique.
Voilà.
C'est vraiment, voilà, c'est Superman. Parce qu'il a réussi à incarner le personnage.
Et qui reste d'ailleurs le film référence pour pas mal de monde,
voilà.
D'ailleurs.
Même si on. Et à la limite que ça ne respecte pas énormément l'univers de la BD, c'est pas grave, parce que c'est Superman, quoi. C'est tout. Voilà, mais quand on a Superman, le premier film de Superman, il y a la musique. On pense à la musique. Quand je pense à Superman, j'ai la musique dans la tête avec un Superman, les poings sur les hanches,
avec
le regard
Christopher
vers le
Reeves, voilà. La mèche et le voilà, évidemment. Voilà. Voilà.
Et c'est ça qui est iconique en fait. Et c'est ça qui réussit dans Sentai, c'est un peu cette redondance de style et tout ça, mais qui fait qu'on s'attache aux gens, qu'on s'attache aux persos. Après, t'as des acteurs qui sont plus ou moins bons aussi. Je veux dire que je suis pas fan de toutes les saisons. Par exemple, en Sentai qui m'horripile, par exemple, il y a Mega Ranger qui date de 2000. Et qui fait vraiment année 2000, genre comme Chimie 2000 en fait, quoi. C'est un petit peu fou. C'est les téléphones cellulaires. Ouais, j'ai le pouvoir du téléphone cellulaire dans ma tête. C'est ridicule. C'est assez mal fait, donc ça a très très mal vieilli. Mais t'as des séries, t'as des trucs qui restent, qui passent vachement bien, quoi. Parce que justement, c'est bien fait.
聞いてないの？無敵。ラジオカニュで土曜の9時から10時まで絶対聞いてみて。超かっこいいから。特に声が。あ。いや私姿は見たことないけど声は超いいんだって。まあ姿は見なかったことにしよう。
Avant qu'on passe, parce que je voulais aussi parler pas mal de Kamen Rider, ouais. Mais avant qu'on y arrive, qu'est-ce qui t'a plongé dans la marmite en quelque sorte ? T'as un événement ou...
Comme tout le monde, hein, je veux dire que j'ai regardé Recrea 2 comme tout le monde, j'ai regardé Bioman, enfin j'avais pas pu le regarder sur Canal parce que j'avais pas Canal en fait, enfin j'ai eu Canal mais trop tard en fait, mais j'ai regardé Bioman comme tout le monde chez Dorothée, j'ai regardé Liveman comme tout le monde, j'étais amoureux de Megumi comme tout le monde... non mais il y avait voilà c'est il y a pas de mystère j'ai fait comme tout le monde simplement déjà bon ils ont arrêté de diffuser du toku japonais quand ils ont passé Power Rangers parce que ça on pourrait en parler parce que il y a quand même
on en parlera il y a eu
une OPA hostile quand même faut vraiment le dire et là on a perdu un truc c'est-à-dire quand ils ont commencé à passer Power Rangers on a perdu un truc donc je me suis rattrapé comme tout le monde quand j'ai eu un ordinateur comme tout le monde.
Quand on a eu Internet, comme tout le monde, et les moyens.
Comme tout le monde.
Voilà.
Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me fournis sur un site qui ont l'aval de la Toei. C'est-à-dire que le mec, le webmaster a expliqué, il a dit est-ce que c'est légal ou pas ? Moi, je vous réponds. Et le mec, il a expliqué, il y en a eu deux mails. Toei est au courant de notre existence. Et on a eu deux fois des mails pour nous demander d'arrêter de produire des subs parce que. Ils sortaient des DVD aux États-Unis. C'est tout.
C'est fair play.
C'est fair play. Et donc, il faut quand même y revenir. C'est-à-dire que Toei signe un accord avec les producteurs de Power Rangers. Donc, ça a été Saban, puis Disney, puis maintenant à nouveau Saban. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand l'Américain achète une série pour en faire un Power Rangers, il possédait jusqu'à récemment, donc au début, c'était ça. C'est qu'il possédait les droits pour tout le genre Super Sentai, pour tout l'Occident.
Donc ça inclut forcément nous aussi en Europe.
Et c'était rétroactif. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas diffuser du Bioman, même des trucs français. C'était rétroactif, on ne pouvait plus. Donc, à un moment, c'est passé chez Disney. Donc, au début, c'était vraiment très mal fait. C'était des stocks. Ils récupéraient la série, les droits de la série. Ils passaient les scènes d'action. Ils coupaient tout ce qui était asiatique dedans, parce que tu comprends, les Américains ne comprennent pas les étrangers. Donc, ils mettent. Au début, ils fabriquaient les costumes eux-mêmes. Ce qui fait que tu avais les scènes ridicules avec le Ranger vert et que les épaulettes en mousse quand il enlevait son casque, avec le col roulé qui faisait 5 cm d'épaisseur. Au fur et à mesure, ils ont eu plus de moyens. Toei fournissait les costumes. Ils ont même fourni des équipes de tournage, des cascadeurs. C'était complètement patent avec quand Saban a vendu les droits à Disney, Buena Vista, donc avec Rick Anger. C'était tourné en Nouvelle-Zélande, donc plus près du Japon, avec des équipes japonaises, avec des cascadeurs japonais, des éléments de costumes japonais. Donc ça, c'était un peu un poil plus raccord, mais ça n'était pas moins mauvais. Hein, parce qu'il y avait le propos américain avec des bruits de laser quand les mecs sautent. Hein, c'est piou-piou, donc tu ne comprends pas tout. Disney a laissé tomber, j'ai eu du mal avec les titres américains, mais donc c'était la version américaine de Go Ranger, qui est pas fantastique, mais qui est sympa, donc RPM, ils ont arrêté là. Puis Saban a racheté les droits, mais un peu moins. Ce qui fait qu'en fait, ils ont les droits que de la série qu'ils diffusent et donc de celle qu'ils ont adaptée. Ils ont adapté Shin Kenger en Power Rangers Samurai et J'ai pleuré du vomi. Ah non, mais c'est une horreur, hein. C'est vraiment. Les questions qu'ils adaptent Kokaiger, donc on se demande comment ils vont faire, vu qu'ils peuvent décemment pas évoquer les anciennes séries qui datent d'avant The Ranger. Donc The Ranger, qui est la série qui a été adaptée en Power Rangers. Donc il est déjà question qu'ils fassent deux saisons de Power Rangers Samurai, comme avec la première saison des Power Rangers. Et donc maintenant, a priori, on a peut-être plus de chances d'avoir des trucs. Si un jour un producteur ose, on peut envisager de passer des produits japonais adaptés aux Français.
Terminé justement avec l'Amérique, tu avais un exemple sur les produits dérivés, sur les jouets par exemple.
Ah oui, alors il faudrait que vous visualisiez les choses. C'est que donc pour les gens qui connaissent Shin Kenger, vous êtes au courant. Alors Shin Kenger, c'est une série qui est basée vraiment sur la tradition japonaise.
On est toujours dans les Super Sentai, bien entendu.
Voilà, voilà. Shin Kenger, c'est une série qui est très très bonne, que je recommande vraiment parce que sous ses aspects Sentai, il y a quand même un gros travail d'écriture sur la relation des jeunes avec la tradition, mine de rien. C'est-à-dire que le leader, le rouge, bon bah c'est un seigneur, et il fait partie d'une lignée de samouraïs qui ont ce pouvoir-là de combattre des monstres. Et à un moment, il est débordé et il doit se résoudre à appeler les descendants des alliés de ses ancêtres, donc des gens qui sont normalement entraînés depuis l'enfance, pour devenir un jour des samouraïs peut-être, des Shinkenger. Et donc, il doit se résoudre à convoquer ses coéquipiers.
Ses anciens vassaux, enfin les descendants, enfin,
c'est vassaux. Dans les faits, ce sont des vassaux. Lui, il considère, non, je ne suis pas un supérieur, on est des coéquipiers, on est des frères d'armes, si vous êtes bon, je vous estime, si vous n'êtes pas bon, vous êtes des nuls. Donc, il convoque ses frères d'armes. Et donc, chacun des membres est un stéréotype de jeune japonais. C'est-à-dire que, par exemple, le bleu, il est destiné à être acteur de kabuki. Donc au Japon, c'est un truc qu'on est de père en fils et à vie. Et il laisse tomber ça pour devenir Shinkenger. Donc c'est le plus assidu, le plus entraîné, celui qui a le tout lu par rapport à ses ennemis, tout ça. Parallèlement à ça, il y a le vert, c'est le jeune japonais qui joue aux jeux vidéo, qui s'entraînait avec son père, mais qu'on a un peu rien à battre. Et qui va être une forte tête et qui va devoir vraiment faire un travail intérieur pour devenir bon parce qu'il est trop prétentieux. Il y a la yellow. Alors, il change un petit peu la donne, c'est-à-dire que la pink, c'est pas la plus nunuche.
C'est la yellow.
C'est la yellow. En fait, c'est celle qui prend la place de sa sœur, qui a aucune estime d'elle-même parce que sa sœur est malade. Donc elle prend sa place, c'est une
bretteuse.
Et une bretteuse émérite, une très bonne joueuse de flûte, mais elle a aucune estime d'elle-même parce que elle remplace sa sœur. Donc voilà. Et la pink, qui a un caractère très fort, qui justement un peu comme le rouge. Si t'es bon, je t'estime. Si t'es mauvais, t'es un gros naze. Mais dès que quelqu'un est triste, elle le prend dans ses bras parce qu'elle est puéricultrice et elle cultive un jour, elle dit ok, je suis Shinkenger, mais un jour, si ça se calme, je serai mère de famille, c'est pas un problème. Contrairement au bleu qui est prêt à abandonner sa vocation d'acteur de kabuki pour être Shinkenger à vie. Donc c'est vraiment déjà une série qui parle de tradition et d'appréhension de la tradition pour les jeunes générations. Et donc pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'il se transforme avec un pinceau. C'est-à-dire que le shodo, donc c'est l'art du pinceau, et que bon, pour pouvoir se transformer, il faut qu'il maîtrise le shodo avec un appareil. Donc ils ont un téléphone, Imaginez, il l'ouvre en deux comme un téléphone portable à l'ancienne, et il le replie en deux après dans le sens de la longueur pour en faire un pinceau. Et avec ça, ils peuvent écrire, ils écrivent une chose et elle se matérialise s'ils le font bien.
Ils écrivent le kanji de la chose et elle se matérialise.
Voilà. Donc par exemple, ils écrivent leur élément et ça devient, ils se transforment. Ils ont un seau qui peut grandir, ils écrivent grand sur le seau, ça devient grand. Et tu les vois s'entraîner, le rouge, le premier épisode, il écrit cheval, il y a un cheval qui apparaît, et puis voilà.
C'est la classe.
C'est la classe. Et là, on voit la transformation américaine.
Voilà.
Alors,
la version
japonaise, ils écrivent Shodophone, ils prennent leur truc, ils transforment en
pinceau. Et les petits japonais ont leur téléphone portable qui se plie, évidemment.
Voilà, bien sûr, ça fait les bruitages, donc ils ont un téléphone qui s'ouvre en deux, qui se replie dans le sens.
Ça, c'est les produits dérivés. Voilà,
c'est un produit japonais.
Allez, on passe en Amérique.
Et ben, ils ont un téléphone portable, ils l'ouvrent en deux, ils écrivent avec un téléphone portable. On saute l'étape 3.
Pourquoi ?
Alors après, on m'a expliqué que c'est parce que, donc, pour vendre du produit dérivé, de toute façon, il faut être clair là-dessus. Une série comme un Sentai, c'est fait pour vendre du jouet, à la base. Après, qu'on écrive des chouettes histoires, c'est un bonus. Donc, à la base, il faut vendre du toys. Sauf que pour les Américains, apparemment, pour la législation américaine, si un jouet comporte trop de pièces, c'est dangereux. Donc, on se retrouve avec un téléphone portable qui s'ouvre juste en deux et les mecs écrivent avec un téléphone. Et il y a plein de jouets comme ça qui, quand ils sont adaptés en version US, sont simplifiés à l'extrême et.
Ils ressemblent plus à rien.
Ils ressemblent plus vraiment.
Tout simplement, voilà.
Donc oui, à expliquer comme ça, par exemple, donc ils ont un seau chacun, donc avec le nom, avec le kanji de leur élément. Donc le rouge a un seau octogonal qui se transforme en lion, et le bleu a un seau triangulaire qui a marqué Mizu, donc l'eau, et qui se transforme en petit dragon. Donc le jouet version japonaise se déplie en 6, quoi, il se déplie vachement bien. Et en version US, il se déplie en 2, puis la tête et la queue, donc il se retrouve avec un gros cul et un gros ventre, voilà. Alors, par contre, on le voit pas dans la version télé. Ils gardent les images japonaises, ils n'ont pas poussé le vif jusqu'à adapter le jouet en.
Sauf que les petits Américains, eux, ils n'ont pas ce qui est à l'écran.
Ouais, non, mais c'est une horreur, c'est vraiment très très laid. Et les jouets sont un peu plus gros, ils sont un peu plus grossiers, c'est. Et honnêtement, par rapport au propos profond de Shinkenger, parce que mine de rien, il y a un propos par rapport à l'acceptation de son destin, en tant que. Parce que je pense que ça peut parler à pas mal d'Asiatiques, j'ai pas mal de copains qui ont choisi de faire un autre métier que ce que leurs parents ont décidé, et ça s'est pas très mal passé. Et c'est pas forcément très Asiatique. C'est en tout cas pour moi assez Asiatique, ça parle vachement aux Asiatiques, et notamment aux Japonais. Et donc, ça, c'est un truc qui est complètement balayé dans la version US, par exemple, le dilemme par rapport à ce qu'ils doivent faire. En fait, c'est la vision American Ninja des samouraïs. Les trucs, les mecs, ils se battent avec des sabres. C'est vraiment la version années 80 des films de sabres, quoi, à l'américaine.
Globalement, c'est juste pour faire cliché. Il faut une robe un peu chinoise, il faut cagoule de ninja, non, c'est quoi ?
Ah oui, alors justement, c'est que par exemple, dans la transformation japonaise, les mecs portent. Il y a un gros décorum, justement. Théâtral japonais, donc il y a des bruits de tambour, il y a des kuroko, donc des hommes en noir qui déplacent des panneaux avec de tissu, et on voit les héros en tenue traditionnelle, donc à kama, tout ça. Et ils font les transformations, et ils écrivent leur kanji, et en gros, bon, ils portent le costume. Version US, ils portent une espèce de kimono de karaté foireux avec des neuneux sur les genoux pour les filles, aux couleurs de leur truc, et samouraï, comment ça s'appelait ? Go, go, samouraï ! Parce qu'ils aiment bien les trucs comme ça, avec des répétitions pour bien que les enfants comprennent. On se retrouve avec une transformation où ils ont une cagoule de ninja, bon, parce que samouraï ninja, c'est la même chose pour les Américains, manifestement. Et donc Samurai Forever, Samurai Together, what a god, c'est vraiment le. Et puis il y a aussi ce problème, ça c'est personnel, mais la musique des Power Rangers, c'est du riff de guitare synthétique, c'est dégueulasse, c'est vraiment du c'est indigeste, alors que justement il y a un travail musical notamment dans les Super Sentai, où c'est des vrais orchestres symphoniques qui jouent des trucs avec des cordes, avec des cuivres, avec des trucs. Voilà, on a un aspect épique, même si c'est des mecs en collant qui sautent sur les trampolines, on a un truc épique qui pose une ambiance, et qu'en version américaine, on a juste du... Voilà. Et je suis même pas sûr que ce soit des vrais instruments, en plus. Donc, c'est grossier. J'ai dit ça à un copain, les Power Rangers, c'est des sushis au ketchup.
Tiens, puisqu'on parle d'adaptation étrangère de Super Sentai, quel regard toi en tant que fan, alors parce que forcément après il y a tout, il y a le fait que ce soit aussi des potes, le fait que ce soit des gens qu'on, oui, qu'on connaît, toi et moi, mais quel regard tu as toi en tant que fan de Toku en général sur France 5?
Bah, j'aurais aimé jouer dedans.
Voilà, ça c'est fait.
Voilà. Non, c'est déjà j'aurais beaucoup de mal à avoir un avis négatif alors que des fans hardcore japonais kiffent vraiment.
Faut le dire ça.
Non mais voilà, ils ont eu un, il y a eu des projections au Japon en 2004, 2005, je sais plus. Des gens se sont déplacés en masse. Ils ont fait venir des, il y a eu un fan club. Ils ont fait se déplacer pour jouer des rôles de figurants dans l'épisode 5 qui va arriver un jour, si si, c'est promis. Personnellement, je trouve que c'est des... bon déjà c'est, ça a lancé un genre parce qu'il y a eu plein de projets qui ont été plus ou moins avortés de Sentai français. Mais moi je kiffe hein. Personnellement, je me remate de temps en temps. Il y a des défauts forcément parce que c'est du fan film, et c'est du très bon fan film. Bon, à part le premier épisode qui a vraiment pris un coup dans la tronche, mais bon.
Ouais, mais ceci dit, tu vois, Alex Pilot avait pris le parti de reprendre, même si c'est pas tout à fait le jeu d'acteur parce qu'il faut un entraînement qui est spécifique, mais il a repris le cadre, ah non, la manière de filmer japonaise quand même.
Il y a une grammaire filmique qui est complètement respectée. Au niveau des, il a eu beaucoup de mal à ce qu'il avait dit à trouver une caméra qui fait des crash zoom, donc il fallait qu'il le fasse en manuel, donc les zooms un peu puissants comme ça. C'est vrai que c'est difficile pour des Français de jouer japonais, mais il y a eu quand même, mine de rien, jouer japonais en costume, parce que c'est vrai que quand ils jouent en civil, c'est ridicule. Essayer de jouer japonais quand on est français, c'est ridicule quand on est en civil. Mais il y a eu un gros travail de fait, et très bien fait d'ailleurs, sur l'expressivité en costume, sur le fait d'être compréhensible, même si dans les intentions. Parce qu'il faut exagérer un petit peu en fait. Mais c'est vrai que j'ai un copain qui a travaillé au Japon sur des séries live, qui me dit ouais non mais c'est pas très, oui j'ai fait, c'est du truc de fan quoi. Ils ont fait ce qu'ils avaient, parce que surtout qu'à l'époque il y avait pas forcément quand ils ont commencé en 99, ils avaient pas forcément accès à tout ce qu'on a maintenant pour justement se documenter quoi.
Donc, et même les effets spéciaux d'ailleurs sur les ordi n'étaient pas les mêmes.
Ah non, c'était une horreur. Hein, donc après bon, ça a permis à Alex de faire ses armes mine de rien. C'est-à-dire qu'il a commencé en faisant du fan film. Parce qu'avant France 5, il y a eu Bitoman. Et donc non, c'est pour moi ça reste de toute façon une référence en matière de fan film français. Et on attend de l'épisode 5 avec impatience parce que ça promet du lourd. Et puisque moi on m'a spoilé des trucs, enfin on m'a spoilé, j'ai eu accès à des
saints des saints du ouais, scénario. Non, vas-y. Je ne vais même pas balancer des choses.
On m'a montré des designs, donc il y a des upgrades, je ne veux pas trop en dire. On m'a expliqué des choses et je préfère laisser la.
Quoi,
la...
Le costume de Silver Mousquetaire est moins moulant.
Non, je ne dirai rien. Je ne dirai rien.
Merde.
Je dirai peut-être en off, mais non. J'ai eu accès à des choses et que effectivement, c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient réussi à créer un vrai climax pour le dernier épisode. Mais j'ai rien vu de concret vraiment. J'ai vu des designs, on m'a expliqué des trucs. J'ai pas eu accès à une version montée. Hein.
Après, on précise que No Life est extrêmement chronophage, même si. Enfin, pour ceux qui s'en rendent pas compte, ça prend quand même. Enfin, ça prend des journées entières et il faudrait des journées de 30 heures pour pouvoir mener à bien la chaîne.
Le problème, c'est qu'Alex a annoncé, je sais plus quand, fin d'année dernière, en fin d'année 2011, qu'il consacrait tous ses dimanches au montage. Parce qu'en fait, la série est tournée. La série est finie de tourner, ça c'est bon, rassurez-vous, parce qu'il y a des gens qui disent comment vous allez faire ? Non, tout est fini de tourner depuis 2005, il n'y a pas de problème. Ce qui prend énormément de temps, c'est la post-prod.
Le montage. Le casage d'effets spéciaux.
Et le problème, c'est qu'Alex, de toute façon, il le dit sur No Life régulièrement, parce qu'il monte, il ne peut monter que le dimanche, parce qu'après, il faut que des fois qu'il dorme ou qu'il se repose, des trucs comme ça. Donc, il se ménage les dimanches. Il a annoncé qu'il sortait si je me souviens bien, le 5 mai 2012. Hein. Il a dit, le 5 mai 2012, l'épisode 5 sort, monté, pas monté, fini, pas fini, il sort, après je finirai, mais je fais sortir le 5 mai. Donc il essaye de tenir cette promesse là, donc il consacre tous ses dimanches à ça.
Et donc, il monte 7 jours sur 7, concrètement.
Il travaille 7 jours sur 7 sur une table de montage, mais des fois il dort quand même, et des fois il mange aussi.
Sur sa table de montage.
Voilà. Donc, d'après ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il a eu beaucoup de mal parce que bah, il retrouve pas forcément les scripts de l'époque. Donc, il a des cassettes en brut. Donc, il faut qu'il remonte de mémoire des fois. Donc, c'est assez tendu, quoi. Donc, rassurez-vous, l'épisode 5 n'est pas mort. Il bouge encore et il sortira. Il va sortir, fini ou pas, le 5 mai normalement.
Maintenant, ils sont plus 5, ils sont plus que 1, on va parler de Kamen Rider. Et encore, non, on va pas tout à fait parler, on va pas tout à fait sortir du Super Sentai parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait.
À la base,
à l'origine du monde.
À l'origine, il y avait un seul créateur pour les deux. Et effectivement, Ishinomori Shotaro, qui est un mangaka assez connu, qui a créé Kamen Rider. Mais il a aussi créé les premiers Sentai, Goranger et Jacka. C'est-à-dire que c'est lui, enfin Jacka, il a fait surtout les designs, mais il a écrit et designé Goranger. Ce qui fait que Kamen Rider et les premiers Sentai ont une origine commune. Alors il faut savoir que jusqu'en 2000, les deux premières saisons, les deux premières séries Jacka et Goranger ne comptaient pas dans la mythologie. Ça a été inclus après. C'est pour ça que maintenant on parle de 35e série, mais théoriquement on devrait compter 33. Mais ils ont décidé que finalement c'est un Sentai et il y a une différenciation. À partir du moment où il y a un robot, c'est Super Sentai. Donc oui, Ishinomori Shotaro est un créateur. Il a créé énormément de séries. Il n'a pas écrit que ça, mais ça serait excessivement long d'évoquer tout ça. Mais l'origine du premier Rider, c'est un personnage, Hongo Takeshi, qui se fait capturer et tuer par une organisation qui s'appelle Shocker, qui crée des hommes mi-hommes, mi-cyborgs, enfin des cyborgs, avec des capacités animales. Et donc pour le coup de Hongo Takeshi, c'est mi-homme, mi-sauterelle, avec la capacité d'une sauterelle, donc le saut, la puissance dans les jambes, tout ça. Sauf que lui, il se rebiffe contre ses créateurs. Déjà, si ça vous rappelle un peu Robocop, c'est pas forcément étranger, parce que Verhoeven est un grand fan de Japanime, et que donc forcément, il a peut-être été influencé.
Verhoeven, en plus, on l'a retrouvé dans Starship Troopers, oui, mais ça, c'est un autre débat.
On peut reparler de ça. Voilà. Et donc, les Goranger, c'est la même, ce sont des cyborgs. Ce qui fait qu'en fait, pour Shinomori, il n'y a pas de héros humains, il n'y a que des héros qui sont passés par la mort pour être surhomme.
T'es presque en train aussi de me parler de Spawn, en quelque sorte.
Oui, pas loin. Mais Spawn n'est plus humain. C'est-à-dire que Spawn est passé à un autre stade, mais les Riders, enfin c'est aussi par facilité, parce que bon, voilà, c'est plus facile d'être des acteurs humains. Dans le Toku, enfin dans le Sentai, dans les premiers Sentai, il faut bien préciser, parce que c'est plus le cas après dans d'autres trucs, mais dans les premiers Sentai et dans les premiers Riders, les trois premières saisons, c'est ça d'ailleurs, hein, Ichigo, Nigo et Visri sont des personnages qui sont morts et ramenés à la vie en tant que Rider avec des pouvoirs en plus. Après, c'est pas forcément le cas de tous. Mais il est intéressant de noter que ce sont des personnes qui doivent mourir pour accéder à un stade de surhumain. C'est très dans l'état d'esprit d'Ishinomori, ça. À l'époque, il a créé énormément de personnages à peu près dans cet esprit-là. Puis t'as d'autres mangaka qui ont créé des trucs comme ça, genre j'ai oublié son nom, mais celui qui a créé le manga Eight Man, c'est exactement Robocop aussi. C'est-à-dire que c'est un flic qui se fait tuer en service et qu'on ramène en tant que cyborg et qui est super fort. Sauf que lui, il court par rapport à Robocop. Il sait courir. Donc non, mais c'est une thématique. Cyborg 009, c'est un groupe de surhommes qui sont ramenés à la vie avec chacun un pouvoir particulier. Donc le 009, le héros japonais, est, si je me souviens, super rapide. Il y en a qui volent, il y en a qui crachent du feu, je sais plus. La seule fille du groupe, je sais plus ce qu'elle peut faire, elle fait pas un truc très utile, mais voilà. Il y a des histoires de missions un peu style Mission Impossible, des trahisons, des trucs comme ça. Donc c'était à l'époque une distanciation entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que à cette époque-là, pour être un héros, il fallait être mort. Un petit peu. Et après, bon, ça s'est un peu perdu. C'est qu'après, pour qu'une série s'appelle un rider, il y avait plusieurs cahiers des charges, genre la transformation par la ceinture, un masque qui rappelle un peu un insecte. Pas forcément, mais...
C'est très important la transformation par la ceinture, parce qu'en plus de ça, ça influe sur beaucoup de choses dans cette série, parce que
il y a toujours l'iconisation, la pose, les trucs comme ça. Mais par exemple dans le manga Kamen Rider, il y a absolument pas de transformation par la ceinture. Le mec il a un casque planqué dans le réservoir de sa moto, puis c'est ce qu'on voit dans le film The Next d'ailleurs. Enfin, la ceinture tourne, le mec porte son costume, il n'y a pas de pose, de machin, de truc. Forcément, pour que ça marche auprès des kids, il faut des trucs, des poses iconiques. Donc, il va y avoir les poses de bras de Kamen Rider. Et c'est ce que j'avais lu dans une interview de Kenji Oba. Quand on lui a demandé de faire sa transformation, il a fait un truc très simple, parce qu'il a fait un truc épuré, il a juste levé les mains au ciel. Il a dit non.
Ça, c'était pour XOR, ça.
Ouais,
voilà.
Pour XOR. Mais on lui a dit non, on fait un truc que les gamins puissent reproduire dans les cours de récré. Donc, il a fait le Jochaku avec les mouvements de bras, qui trouve une explication en plus, genre c'est une sorte de code pour que l'ordinateur sache que c'est bien lui. Et ça, c'est devenu un gimmick quasi obligatoire, ce qui fait qu'un mec, pour se transformer, doit faire un mouvement de bras et se transformer par sa ceinture.
この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
Il y a des exceptions, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin des années, même au début des années 90, il y avait plus de séries régulières. Il y avait des téléfilms de Rider. Il y a eu Kamen Rider Z O et J. C'était que des téléfilms. Il y a eu Shin Kamen Rider qui était une tentative de relecture bio-organique du truc, c'est où le héros se transformait en homme sauterelle, mais vraiment style loup-garou. C'était genre génétiquement modifié, tout ça. Donc là, il n'y a pas de ceinture. Ça s'appelait Shin Kamen Rider, mais dans le genre Kamen Rider, parce que c'était un homme sauterelle, quoi. Et après. Donc Ishinomori avait commencé à écrire d'autres scénarios sur la même thématique. Il y a eu, à partir de la nouvelle décade, Kuga, qui était complètement différent, parce que là c'était une sorte de héros mystique qui portait un costume propre à combattre une race d'ennemis. Il avait un look insectoïde, il y a eu une transformation par la ceinture, mais on est loin du mec cyborg en fait, c'est une sorte d'élu.
Ça c'est à partir des années 90, c'est l'ère Heisei.
Fin 90.
Voilà.
Fin 90, début 2000. Agito, c'est une sorte de suite plus ou moins officielle de Kuga, parce qu'on fait référence à des événements qui ont eu lieu dans Kuga. Et à partir d'Agito, c'est une saison, chaque saison est indépendante des autres. Alors parfois, c'est plus ou moins heureux, parce que par exemple, Kamen Rider Ryuki, c'était une série qui n'était pas forcément écrite pour être un rider. Et on s'est dit, ouais, mais il nous faut une saison, vas-y, on en fait un rider. Donc ça a été fait assez maladroitement, mais il a des gros yeux de mouche, alors que c'est censé être un dragon. Il se retrouve avec quand même
dragon mouche, voilà. Avec un sabre et il est tout rouge. On dirait presque Seigar avec un casque au final.
Voilà, en gros, il y a une histoire en fait de à l'Highlander, c'est-à-dire que t'as des mecs qui sont élus. Et précisons une chose, c'est que l'essence même de Ryuki, c'est que les mecs ne se transforment pas dans la rue. Ils portent un costume pour se battre dans le monde du reflet, dans le monde des miroirs.
Et là, ça rejoint XOR.
Entre autres. Sauf qu'ils ne se battent que. Et en fait, il y a des mecs.
Ils se battaient dans un décorum, voilà. Avec fumée en bas.
Sauf que là, le monde des miroirs, c'est juste le même, mais en miroir, quoi. Ça s'appelle Kamen Rider Yuki, mais on voit la moto 10 épisodes, puis après c'est fini. Mais ils se transforment par la ceinture, c'est-à-dire qu'ils ont un deck de cartes, ils le tendent devant un miroir, la ceinture apparaît, ils bloquent le deck dans la ceinture et ils se transforment. Par contre, il y a une série où ça a été vraiment fait au forceps pour l'appeler Kamen Rider, parce que juste ça s'appelle Kamen Rider, mais ça n'a rien à voir, c'est Ibiki.
Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-ci? Il n'a pas d'yeux de mouche, même pas une sauterelle.
Non, c'est inspiré de la mythologie animiste japonaise. Les mecs ont des looks un peu de Oni sans visage. Ils se transforment avec un diapason sur le front. Il n'a pas de moto. Si, à un moment, il passe son permis de moto. Et voilà. Et c'est tout. Il n'y a aucun rapport avec Kamen Rider. Ça a vraiment été placé au forceps. Mais il y a des séries comme ça où on se demande parfois.
Après, il y a un peu de marketing, c'est pour les raccrocher aussi voilà, à une série prestigieuse.
Voilà, on appelle ça Kamen Rider, mais par exemple, Faiz aurait très bien pu être une série indépendante aussi. Den-O, limite, hein. Là, parce que Den-O, à part le look, parce qu'en fait, il a plein de looks différents en plus, à part le sword form où il a des grands yeux rouges un peu, qui rappellent un peu une guêpe.
Faut se lever de bonne heure,
voilà.
D'accord.
Parce qu'après, quand il passe en. Il y a différents aspects qui peuvent rappeler du Kamen Rider, il se transforme par une ceinture parce que c'est une sorte de passe Navigo, enfin, faut connaître la série. Ben oui, Den-O, c'est le roi du train en fait, littéralement quoi. Parce qu'il il y a une question d'un train du temps, le Denliner. Et que donc le héros est en fait une sorte de point fixe comme dans Torchwood. Le héros est un point fixe dans le temps, donc lui peut voyager dans le temps sans influence.
Continuum espace-temps.
Voilà. Voilà. Et donc les mecs voyagent dans une sorte de métro, dans une sorte de Shinkansen du temps. Et en gros, le postulat de base, c'est que Den-O combat. Il y a des monstres, ce qu'on appelle des Imagines, qui apparaissent à notre époque, qui vont proposer de réaliser un vœu à une personne. Souvent pas mal de séries marchent sur ce truc-là. Ils jouent sur la cupidité des gens, des trucs comme ça. Donc ils proposent de réaliser un vœu. Alors le mec qui dira je veux plein de pognon, en fait le monstre va dévaliser toutes les banques de la ville. Le mec va mourir écrasé sous le pognon. C'est un peu des réalisations un petit peu perverses.
C'est un peu moraliste au final.
Voilà.
Quoi.
Et en fait une fois que l'Imagine estime que ton vœu est exaucé, le mec va aller dans une époque, va remonter dans le passé à un moment important de ta vie. T'as perdu ta mère, t'as un truc voilà. Comme ça. Il t'ouvre en deux, il va dans ton passé. Et le boulot de Den-O, c'est de le suivre pour le tuer dans le passé. Ce que fait l'Imagine ensuite, c'est il détruit le passé pour niquer le présent, donc le futur. Ce qui a l'avantage, c'est que Den-O, lui, ça adjoint l'aide de certains Imagines qui deviennent ses potes. Donc ils sont pas forcément méchants, mais leur boulot à la base, c'est ça.
Et c'est pas très Kamen Rider tous, en effet, ouais.
Bah, il a une moto, il s'en sert pour conduire le train. C'est bizarre. Oui, parce que bon, littéralement, Kamen, c'est masque et rider.
Parce qu'à la rigueur, ça peut être un super rebelle. Moi, j'ai pas une moto, je ride sur un train, c'est quand même plus gros, quoi.
Bah, en fait, il conduit un train. Donc, en fait, pour piloter le train lui-même, parce qu'en fait, les rails apparaissent devant et disparaissent derrière. Quand il a vraiment besoin d'une scène de poursuite, il y a une moto dans un truc, il conduit le train comme ça, et quand il a besoin de sortir, le cockpit du train s'ouvre et la moto sort, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certains aspects qui parfois on se dit, bon, ça aurait pu ne pas. D'ailleurs, je crois même pas qu'il l'appelle Kamen Rider une seule fois dans la série.
Parler de ces fameux jeux de mots récents,
ah, oui.
Finalement, parce qu'il y a Fosé, il y a Fives,
ah, oui.
Y a Oz. Alors, on va commencer par Fosé parce qu'il y a une double lecture. Parce que oui. Moi, ce que je pensais que c'était simplement une contraction de fort ou force, quelque chose comme ça.
Ça se lit Fours,
ou force, en tout cas. Et puis, c'est encore pire que ça.
Alors, en fait, donc, les gens qui le lisent en Romaji vont lire Fours. Donc déjà bon
Camon ridé Fours
voilà sauf que bon c'est pas Fours c'est Fours en anglais ça c'est Fours à la limite et en japonais en fait alors il y a un truc c'est que pas mal de Kamen de série de Rider ont une écriture qui ne correspond pas à la prononciation du tout donc comme tu disais donc il y a Fosé il y a Faiz donc ils écrivent 555 mais c'est Faiz donc je vais prendre dans l'ordre hein, je vais commencer par Faiz bon, Faiz 555 sauf que en fait, c'est des 5 au pluriel dans des fives. Donc, mais en même temps, il y a un signe, une lettre grecque propre à chacun des 3 riders de la série. Et fives, bah, en fait, c'est la lettre phi grecque. Donc un rond barré en travers, en perpendiculaire par un trait. c'est un peu une erreur, mais le prononce à l'anglaise faille. Donc faille.
Donc c'est aussi l'imaginaire des scénaristes qui est sacrément barré aussi.
Voilà. Mais le truc marrant, c'est que par exemple, pour se transformer, le personnage utilise son téléphone, il écrit 555 entrée. Ok. Mais il y en a un qui est très drôle, c'est le rider secondaire, Kaïsa. Kaïxa, donc c'est un X. Son logo, c'est un X. Il tape sur son téléphone 913. Parce qu'en japonais.
Un multiple, non?
Parce qu'en fait, c'est en japonais, le 9 peut se lire K, I de Ichigo, et Sa et Za de San. Donc en fait, il y a vraiment un travail de travail là-dessus. Bon, après, il y en a un, c'est Delta, donc il fait 333, donc je fais pas chier avec ça. Donc voilà, Faiz se lit Faiz, même si on écrit 555. Et donc, on a parlé de. Bon, je vais prendre dans l'ordre. Donc je dis, par exemple, t'as Double. Donc ça se lit W, mais ça se prononce Double. Donc, à la limite, tu dirais W. En fait, ce qu'il était question dès le début.
Ben, double.
Voilà, de double. Voilà. Au tout début, il était question que la série s'appelle Zwei. C'est dur à prononcer pour les Japonais. Zwei comme deux en allemand. Donc, ils ont pris double et ils ont mis un W parce que finalement, bah, ça correspond à la ceinture une fois ouverte, en fait. Et donc, Fosé. Donc, alors Fosé, il y a encore un autre truc. Donc, ça se prononce. Ça s'écrit Fourze. Ça se prononce Fosé. Comme je disais, par rapport au slot aussi. C'est-à-dire que dans Decade, il utilise un lecteur de cartes. La série suivante, Double, c'est un double, c'est un truc où on met deux espèces de clés USB.
Voilà.
Ok. La série Oz, donc ça, on met O-O-O, voilà, ça se prononce Oz.
C'est pas triple O, c'est Oz.
Et en fait, il a une ceinture avec trois slots pour mettre trois médailles. Donc vous avez, je sais pas si vous avez calculé, 1, 2, 3, 3 slots.
Ok, tu Fosé, là, ça va.
Et la série Fosé, il a 4 slots pour mettre des Switch. Donc là, on à partir de Decade, on a des ceintures à chaque fois qui augmentent de slots. Donc 2, 3, 4. Donc Fosé, c'est 4 Switch.
Et
donc
il ne faut toujours qu'un centième de seconde. Non, je déconne.
Mais donc, disons, on peut se dire, bon, bah, des 4 slots. Mais c'est encore plus subtil que ça. C'est que. En fait, Kamen Rider Fosé marque les 40 ans du genre Kamen Rider.
Donc, attention.
40, c'est constitué d'un 4 et d'un 0. En anglais, 4-0.
Et comme les Japonais aiment réduire tout ce qu'ils trouvent,
voilà.
Genre Pocket Monster est devenu Pokémon, mais bon, il y a encore tellement d'autres choses.
4-0, ça donne Fosé. C'est qu'à partir de Decade, ils ont commencé à relancer une époque, en fait, en gros. Parce qu'il y a fort à parier que la prochaine saison, il est 5 trucs, on sait pas comment. Ils vont se retrouver avec je sais pas quoi, mais on a un peu peur.
Avec une ceinture uniquement composée de slots.
Ouais, hein, mais c'est... ce qui est marrant, c'est que justement, contrairement à d'autres séries, parce que des fois, dans Double, il était question de ça, on disait oh là là, le mec, c'est un Kamen Rider. Donc déjà, il le nomme. Les nommément cités comme ça. Et dans Fosé, c'est encore plus subtil, c'est que donc, le mec s'appelle juste Fosé. Et il y a le personnage de Tomoko, qui est une sorte de gothique otak, qui a un iPad. Elle fait « Oh, mais c'est un Kamen Rider !» Et elle regarde des images des anciennes saisons, des toutes premières saisons. Parce qu'en gros, c'est les Kamen Riders, c'est une légende urbaine. Et donc, bah, comme ils ressemblent, bah, ils vont l'appeler Kamen Rider comme ça. C'est assez marrant, en fait. Donc, il l'inclut dans une continuité sans vraiment en faire un, quoi.
Il n'est pas adoubé parce que « je suis Kamen Rider ». Non, il est adoubé parce que les gens l'appellent comme ça.
Le prennent pour un Kamen Rider. Et donc, finalement, bon, ça, on vous vient donc dans la série. Parce qu'en fait, c'est une série qui est très lycéenne, en fait. Ça se passe dans un lycée. Et on se retrouve avec une ambiance un peu à la Glee. Et donc, ils forment un club, le Kamen Rider Boo, donc le club Kamen Rider. Et le club Kamen Rider, c'est une référence aux premières saisons où tu avais des gamins qui aidaient les riders. Et donc là, on se retrouve avec une boucle par rapport aux premières séries où bah, là, ils forment un club Kamen Rider. Quoi.
Bah, c'est un bel hommage, justement. Ouais. C'est un hommage qui est beaucoup plus beau que celui de Decade, par exemple.
Ah oui, non, mais Decade, c'est. En termes d'hommage, je pisserais sur la tombe de quelqu'un, ça serait un plus bel hommage. Quoi.
ライダー
tu as parmi toute la collection un toku en conseil de regardure, comme dirait Katsuka?
Moi je recommande Garou. Mais vraiment, c'est-à-dire que on est loin justement du Sentai ou du enfin du toku pour enfants, parce que c'est ça, c'est que de toute façon Super Sentai et Kamen Rider sont diffusés en double programme le dimanche matin à 7h du mat. Amemiya Keita, donc le créateur de Garou, s'est posé la question: qu'est-ce qui plairait aux mecs de ma génération qu'on grandit avec du Rider, avec du Kamen Rider ou des trucs comme ça? Parce qu'il avait fait des trucs déjà un peu adultes avec certains Riders, avec si je me souviens bien, c'est lui qui a écrit Kamen Rider ZO. Il a des trucs un petit peu
musclés, quoi.
Un petit peu avec un enfant monstre, tu vois, des trucs un peu crado. Oui. Et donc il s'est dit, voilà, moi j'ai envie de faire un toku pour adultes. Et il a écrit Garou. Alors forcément, la première saison date de, si je me souviens bien, de 2003, 2004. Donc elle a pris un petit coup dans l'aile au niveau des effets spéciaux. Mais honnêtement, sincèrement, passez outre. Et regardez-la, parce que rarement on aura une série fantastique. Parce que voilà, moi à la limite, je la mettrais en parallèle avec Buffy, mine de rien. C'est-à-dire que ça, d'un premier abord, c'est un peu con-con, mais ça aborde pas mal de sujets sérieux. Avec les moyens du bord, donc c'est vrai que comme Buffy, t'as des effets un peu pourris, mais bah, c'est comme Whedon, en fait, le mec aime ce qu'il fait, et on se retrouve avec une vraie mythologie propre à la série, inspirée de la culture japonaise, mais avec un truc propre vraiment à la série, des personnages attachants. Je veux dire que moi, j'ai une distance par rapport à ça, mais il y a un épisode qui m'a fait chialer, quoi. Il y a un passage de super touchant, parce qu'il y a un personnage secondaire féminin qui est super touchant, qui explore son passé, et le truc, il y a un moment de tendresse et t'as la boule dans la gorge, quoi. Quand je l'ai vu, je fais waouh. Et cette série là c'est ça, c'est, il y a de la violence, il y a des meufs avec des seins à l'air, parce que bon, une histoire de démon justement qui profite de la cupidité des gens. T'as un sculpteur qui veut être tellement bon sculpteur qu'en fait ce qu'il fait, c'est qu'il sculpte ses modèles, tu vois. Par exemple, il y a des trucs en argile, et en fait quand il bouge l'argile, c'est le modèle qui bouge. Donc quand il arrache un membre, c'est, voilà. Donc t'as des trucs, t'as un truc, c'est très Brian Yuzna la première saison. C'est-à-dire un mec qui est amoureux d'une femme poisson, c'est une sirène, mais pas du bon côté, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Cette série-là, la première série est assez courte, elle dure 20 épisodes. Il y a eu un téléfilm qui est assez sympa. Ah oui, et puis faut dire un truc quand même, c'est que dans cette série, il y a des personnages, il y a des gueules. Tu vois ce que je veux dire ? Contrairement à pas mal de trucs au Japon, cette série-là, elle a des gueules. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément au canon de beauté ou de physique que t'as l'habitude de voir dans les trucs. T'as des personnages qui ont vraiment des physiques et qui font que, voilà, ça installe des persos. T'as le Kodama, par exemple, le majordome muet. C'est un acteur métis, eurasien. Il est cascadeur, il a été plusieurs fois champion du monde d'arts martiaux, il a été doublure costume dans pas mal de trucs. C'est un mec qui bouge comme un dieu. Il a un physique un peu particulier. Et ben, voilà. Déjà, ce mec-là, quand il bouge, tu fais waouh, tu te tais, quoi. Et en fait, c'est lui qui double pas souvent l'acteur principal. Parce que l'acteur principal est un excellent combattant, mais il y a des choses qu'il sait pas faire.
Mais les répliques, par contre, c'est pas son fort, voilà.
Voilà. Et il y a une actrice, je t'ai montré des photos, celle qui joue Jabi. C'est une meuf qui est
extrêmement charismatique.
Voilà, elle est charismatique. C'est pas un canon de beauté japonais, d'actrice japonaise. Elle a une gueule. Elle est
non, mais le regard de braise, par contre.
Elle a un regard de.
Un regard de combattante.
Voilà,
et qui parle tout de suite.
Et cette fille-là, par contre, elle est pas doublée. Quand elle fait des trucs, elle fait des trucs toute seule. Elle est jamais doublée. Elle est cascadeuse, danseuse, acrobate. Et voilà, il y a des personnages comme ça. Quand on a des personnages joués par des gens avec un physique et tout qui sont dedans, c'est magnifique, quoi. Déjà, vous matez-vous cette série. Ensuite, il y a le téléfilm White Knight qui a introduit un nouveau guerrier. Parce qu'en fait, oui, je vous ai pas dit, c'est que dans Garou, le héros peut se porter une armure d'or avec une tête de lion. Il a oui, parce que j'ai pas dit ça. Il est genre beau gosse avec un impère en cuir blanc avec une épée. Et quand c'est vraiment un peu la merde, il se transforme. En fait, pour décrire ça,
ceux qui sont allés à Japan Expo l'an dernier peuvent se souvenir.
J'ai porté un costume fait par un pote qui s'appelle Jérôme. J'étais un méchant, il était gentil. Il portait l'armure de Garou. En fait, pour décrire la série en trois mots, je dis un peu, c'est une sorte d'Onimusha en série live. Le héros se bat en civil, et quand c'est un peu la merde, il se transforme, il porte une armure. Il y a eu un film qui est sorti l'an dernier qui est sympa mais un peu passable, parce que comme je te disais, c'est qu'il n'y a pas de. Le héros est tellement lumineux, tellement présent, qu'il n'y a rien en face de lui. Donc c'est vraiment. Voilà, il manque quelque chose. Et là, Mais ils ont sorti une nouvelle série, alors uniquement en DVD, elle n'est pas sortie à la télé au Japon, c'est très dommage, qui s'appelle Makai Senki. Ah oui, il y a eu un téléfilm, un court-métrage sur Kiba, le personnage que je portais en armure, pour expliquer justement à quel point que c'est pas juste un méchant, tu vois. Et très très beau, très bien fait, avec des animations style coup de pinceau, comme je disais. Et il y a la série Makai Senki, qui est une merveille, parce que maintenant que les personnages sont installés, maintenant qu'on est au courant de la mythologie, de comment fonctionnent les monstres et tout ça...
C'est la deuxième série de Garo.
C'est voilà. La deuxième saison, sortie uniquement en DVD. Maintenant qu'on est au courant de tout ça, l'auteur se permet des digressions. Il se permet d'avoir des trucs, des épisodes super, super cool, comme je t'expliquais avec l'initiation du prêtre, là, et la fiancée du héros qui le suit. Il y a... Des fois, il y a des épisodes où on ne voit jamais le héros, parce que ça se concentre sur un personnage secondaire, et il y a un fil rouge quand même. Et on est emporté, et on suit le truc, et c'est classe. Et je veux dire, une série qui a une telle mythologie, qui se permet d'emporter les gens comme ça, bah c'est rare, quoi. Et c'est une série qui parle adulte, qui parle aux adultes, mais qui a encore un esprit un peu imaginaire, quoi. Et ça c'est quand même vachement la classe. Donc Garo, si je devais recommander un seul toku, Garo.
Muteki, une heure de J-Rock et de J-Pop avec Damien et Romain. Que des mecs en un, mais ils sont deux.